Bonjour, Régis Coulange. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Et c'est aujourd'hui que j'ai le plaisir de vous retrouver, Régis Coulange, pour cette émission sur la défense des droits humains après une interruption normale estivale.
Oui, l'interruption de...
D'émission,
mais hélas, oui, les violations des droits humains ont continué et les actions d'Amnesty ont continué pendant l'été. Voilà, donc on reprend cette émission aujourd'hui. Et je vais vous parler donc d'Amnesty International, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce mouvement. Et puis ensuite, je vous parlerai des violations des droits de l'homme qui a lieu en Turquie, notamment de l'emprisonnement de nombreux journalistes et de militants des droits humains. On parlera des pétitions qui sont sur le site d'Amnesty, et deux pétitions notamment, en particulier sur le problème des Rohingyas et puis sur les importations de biens venant des colonies illégales et des activités des entreprises françaises dans ces colonies en Israël. Et puis on parlera bien sûr des activités du groupe Dinois qui reprend aussi, puisque nous avons demain notre réunion de rentrée, et il y a déjà pas mal d'actions au programme. Et en même temps, dans cette émission, je vais faire découvrir ou redécouvrir pour certains un chanteur qui chantait dans les années 70-80, qui s'appelle Herbert Pagani, qui a une très belle voix et des chansons aussi très intéressantes. Et vous verrez que c'était un peu un précurseur parce qu'il avait prédit un peu ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà, alors on commence par rappeler un peu ce qu'est Amnesty International. C'est un mouvement mondial et indépendant pour les droits humains qui est présent dans plus de 70 pays, qui compte plus de 7 millions de membres et de sympathisants dans le monde entier. En France, il y a 380 structures militantes qui sont des groupes principalement ou des antennes jeunes dans les lycées et les universités. On a 75 000 membres adhérents en France et 240 000 donateurs actifs qui nous aident. Donc, notre action, c'est pour un monde plus juste. Nous promouvons les droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels, indivisibles et universels, énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Nous voulons prévenir et faire cesser les atteintes graves à l'ensemble de ces droits et défendre les victimes de ces violations en exigeant réparation. Amnesty est un mouvement complètement indépendant, de solidarité. Les actions et campagnes d'Amnesty reposent sur l'engagement militant de femmes et d'hommes de tous horizons et de tous pays. Pour chacune de ces actions, Amnesty International se réfère principalement au droit international. Et Amnesty est indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique, de tout intérêt économique et de toute croyance religieuse. Son financement repose donc essentiellement sur le soutien financier de ses donateurs et de ses membres. Nous menons des recherches et des actions. Alors pour pouvoir faire ces recherches, nous avons des enquêteurs qui vont sur place dans les endroits où les violations des droits humains sont les plus criants, les plus importants. Ensuite, on a un travail d'alerter les médias et l'opinion publique par la publication de communiqués et de rapports. En février, le rapport annuel établit le bilan des violations pays par pays et il est consultable, je le dis pour les Dinois, à la médiathèque de Digne. Il y a un exemplaire. Et puis, on agit. Suite à toutes ces enquêtes et ces rapports, on agit par des actions de pression auprès des autorités et des décideurs, par la mobilisation des réseaux militants, par la signature de pétitions, lettres de pression, manifestations, débats publics ou éducation aux droits humains, et par la sensibilisation du public. Alors, une des actions principales ouvertes vers le public, c'est les fameux 10 jours pour signer que l'on fait dans la semaine autour du 10 décembre. Cette année encore, le groupe de Dean sera présent à la médiathèque. Et donc, c'est une action où on choisit 10 cas de violation, très différents les uns des autres, et on essaie de faire signer un maximum de personnes pour ces cas. Donc, le 10 décembre 2016, nous avons obtenu 4 660 774 actions de pression et de solidarité dans le monde. Et plusieurs personnes pour lesquelles nous étions mobilisés lors des précédentes éditions ont été libérées. C'est le cas d'Albert Woodfox, détenu à l'isolement aux États-Unis depuis plus de 40 ans. De Fio Fing Hong, emprisonné en Birmanie pour avoir manifesté pacifiquement contre le gouvernement. De Yesenia Armenta, détenu au Mexique après des aveux obtenus sous la torture. Et de Fred et Yves, deux jeunes prisonniers d'opinion qui risquaient la peine de mort en République démocratique du Congo pour demander simplement la démocratie dans ce pays. Voilà, c'est pour vous montrer que ces actions payent. Et plus on sera nombreux à agir, mieux ce sera et on obtiendra davantage de libération. Donc les objectifs d'Amnesty qu'on s'est fixés pour les années qui viennent, c'est protéger les civils dans les conflits, faire respecter le droit international humanitaire. Donc on a eu des actions en 2016 en Syrie, au Soudan. En Syrie, on continue d'ailleurs à interpeller les gouvernements afin qu'ils mettent fin à l'impunité des auteurs de violences et à mobiliser pour la justice et pour que les victimes obtiennent réparation. On veut garantir la protection des réfugiés. On mène une campagne qui s'appelle I Welcome sur l'accueil des réfugiés, justement, pour demander notamment une solidarité entre les États afin d'accueillir ces réfugiés. On veut aussi réguler le commerce des armes. Donc le traité du commerce des armes, qu'Amnesty a grandement participé à créer, est entré en vigueur fin 2014. Il interdit tout transfert d'armes qui servirait à commettre des crimes contre l'humanité ou d'autres atteintes aux droits humains. Nous veillons donc à sa mise en œuvre et son respect, y compris par la France, qui l'a activement promis et ratifié. Voilà, on a des actions donc sur réguler le commerce des armes. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, j'ai regardé sur le site amnesty.fr, vous pourrez y aller. Peut-être si j'ai un peu le temps, je vous en parlerai en fin d'émission. Mais on a mené une enquête au Royaume-Uni et on s'est aperçu qu'il y avait des sommes très importantes d'armes qui ont été vendues au Soudan du Sud, alors que normalement, si on se fie au traité, on ne doit pas vendre d'armes dans ce pays qu'il utilise notamment contre sa population. Voilà, donc protéger les personnes dans les conflits, garantir un véritable accès à la justice. On a notamment travaillé sur des dizaines de travailleurs qui meurent dans les mines en RDC, où il y a plus de 40 000 jeunes garçons et filles qui y travaillent, souvent plus de 12 heures d'affilée pour gagner entre 1 et 2 dollars par jour. On veut aussi défendre les libertés, défendre les droits et les libertés dans la lutte antiterroriste. La lutte antiterroriste ne permet pas tout et on a besoin d'être vigilant par rapport aux droits et aux libertés. On soutient aussi, bien sûr, et on protège les défenseurs des droits humains. Je vais vous en parler justement en Turquie. On combat la surveillance illégale, vous savez, ce qu'on appelait la surveillance de masse. Voilà, défendre les libertés et puis aussi combattre toutes les discriminations, lutter contre les discriminations de genre, par exemple. Dans beaucoup de pays, les personnes LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées, restent la cible de traitements discriminants, de violences ou de persécutions qui sont, dans certains pays, extrêmement graves. On a aussi beaucoup lutté contre la discrimination à l'encontre des Roms. qui est une des populations les plus discriminées du monde. Voilà. Et puis, bien sûr, pour toutes ces actions, ben, on a besoin de membres. Alors si parmi les auditeurs, il y a des gens qui veulent nous rejoindre, aucun problème, hein, vous allez sur amnesty.fr, vous regardez dans votre département quel est le groupe le plus proche, vous rentrez en contact, vous adhérez directement à Paris, à Amnesty France, et vous rejoignez nos actions. Mais vous pouvez aussi, sans adhérer, simplement aller signer les pétitions en ligne, il y en a une bonne dizaine, et puis en même temps vous informer de toutes les recherches, tous les rapports qu'on fait. Voilà. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi être donateur. Voilà, on fait partie de la charte du don en confiance. Et puis, vous pouvez déduire de vos impôts une partie de ces dons. Voilà pour la présentation un petit peu rapide d'Amnesty International. On va donc maintenant écouter une chanson d'Herbert Pagani. Chez nous, une de ses plus connues, mais je pense que beaucoup l'ont oublié, et puis les jeunes ne le connaissent pas parce qu'on ne l'entend plus à la radio, sauf sur Fréquence Mistral.
Dehors, les rues sont pleines de vitrines. Y'a des Noëls qui te fascinent. Les gens achètent et s'imaginent que ça les rend heureux. Nous deux, on est loin d'être millionnaires. On mange de tout, on vit par terre. Mais le bonheur est pensionnaire chez nous depuis toujours. Chez nous, ça sent la soupe et le bébé dormant. Les disques pleurent car on les joue souvent. Nos chiens sont fous mais pas du tout méchants. Chez nous, la porte reste ouverte jour et nuit. Il y a toujours un plat de spaghettis et du café tout chaud pour les amis. Ici, le capital, c'est la tendresse. On va puiser notre sagesse dans le silence des caresses. Alors, les grands discours, les belles paroles, tous ces slogans qui vous cajolent, le rythme fou des villes folles, ça colle pas chez nous. Chez nous, on règle l'heure au bruit de nos voisins, et dans les murs y a pas un clou qui tient. Mais les belles nuits passées sur un bouquin. Chez nous, le mot bonjour veut dire vraiment bonjour. On se dispute à coups de mots d'amour. On dirait pas qu'on vit dans une tour. Chez nous, sans la soupe et le bébé dormant, les disques plats car on les joue souvent. Nos chiens sont fous mais pas du tout méchants. Chez nous, spaghettis et du café tout chaud pour les amis. Et puis, quand la tribu rejoint les oreillers, je sors ma planche, ma plume et mes papiers. Allez mon vieux, c'est l'heure de travailler.
Eh bien, c'est bien joli.
Voilà, très belle chanson d'Herbert Pagani. Alors maintenant, je vais vous parler de la Turquie. Vous savez que la Turquie a emprisonné énormément d'opposants, d'enseignants, de journalistes. Et puis, elle a aussi emprisonné depuis plus de 2 mois maintenant le président d'Amnesty Turquie et la directrice d'Amnesty International Turquie. Voilà, ils sont emprisonnés depuis plus de 2 mois. Et Salil Chetty, qui est le président d'Amnesty International au niveau mondial, hein, le secrétaire général du mouvement, a obtenu de la rencontrer dans sa prison. Et voilà, je vais vous lire son témoignage. Alors que j'avançais, j'avais une conscience aiguë de la présence, dans les tours de guet au-dessus de moi, des gardiens armés qui suivaient chacun de mes pas. J'étais en route pour rencontrer ma collègue et amie, Idil Ezer, dans la section la plus sécurisée de la prison la plus sécurisée de Turquie. Idil, directrice d'Amnesty International Turquie, a été arrêtée en même temps que 9 autres défenseurs des droits humains, sur la base d'accusations absurdes de terrorisme, il y a plus de 2 mois. Aussi incroyable que cela puisse paraître, mis à part ses avocats, qui la voient 1 heure par semaine, et un député, je serai le premier visiteur d'Idil. En raison des dispositions qui limitent aux membres de la famille immédiate les visites aux personnes emprisonnées en application de l'état d'urgence, Idil a été entièrement coupée de ses amis. Or, elle n'a plus de famille proche. De toutes les prisons du monde où je me suis rendu, celle de Silivri, le plus grand établissement pénitentiaire d'Europe, est la plus sophistiquée et la plus intimidante. Après être passé par son imposante entrée et avoir été soumis par des gardiens courtois à une fouille corporelle, à des détecteurs de métaux et à un scan de l'iris, je me suis retrouvé dans une immense ville de béton. Malgré la taille du complexe, on pense que Silivri accueille jusqu'à 17 000 détenus. Le lieu est étrangement désert. Seul le claquement métallique d'une porte de prison ou le coup de sifflet aigu d'un gardien vient par moments rompre le silence oppressant. Les bâtiments en béton où Idil est emprisonné sont peints en jaune et séparés des autres blocs par un haut mur. Je suis soumis à un ultime contrôle, puis conduit dans une grande salle très éclairée dépourvue de fenêtres. Au moment même où je m'assieds à une table au milieu de la pièce, une porte s'ouvre de l'autre côté de la salle, c'est Idil. Quand elle me voit, une expression d'étonnement et de joie apparaît sur son visage et ses yeux brillent d'une énergie familière. « Salil !» s'écrie-t-elle, laissant derrière elle les 2 gardiens qui l'escortent pour s'élancer vers moi à bras tendus. Nous nous sommes étreints longuement et avec force, et une profonde émotion m'a envahi. « Quelle surprise !» m'a-t-elle dit. « Je savais que tu étais en Turquie et que tu essayais de me voir, mais je ne pensais pas que tu obtiendrais une autorisation. » Pour moi, c'était exclu. Idil est comme nous avons toujours connu et aimé, souriante et positive. « Je vais bien, m'a-t-elle dit rayonnante. Tu ne vois pas, je fais du yoga, du sport, j'apprends le russe, je lis tous les journaux et je fais le nécessaire pour m'occuper. » Cependant, Idil reconnaît que son isolement est très difficile à vivre. Bien qu'elle partage une cellule avec une codétenue, elle ne peut même pas parler aux autres défenseurs des droits humains arrêtés en même temps qu'elle, comme Özlem Dalkiran. Özlem n'est qu'à 3 portes de la mienne. Mais si je veux avoir des nouvelles, je dois essayer de les trouver dans les journaux. Je ne suis pas autorisé à passer des appels téléphoniques tous les 15 jours comme les autres prisonniers et je ne reçois aucune des lettres qui me sont envoyées. Tout ce que j'ai, ce sont les messages que me transmet mon avocat. Idil me dit que son séjour à Silivri lui a permis de mieux comprendre les épreuves que les prisonniers traversent et qu'elle a l'intention de militer davantage pour les droits des détenus à l'avenir. Je parle à Idil de la réunion que j'ai eue avec ses amis et du fait que le ministre de la Justice a semblé accueillir favorablement notre demande quand nous l'avons prié d'autoriser Idil à recevoir leur visite, étant donné qu'elle n'a pas de famille. Je lui dis aussi qu'on s'occupe bien de ses chats. Idil est également impatient de savoir ce que devient Amnesty Turquie en son absence. Elle déborde visiblement de fierté quand je lui dis que, loin d'être découragée, son équipe, stimulée par du café fort et un immense sentiment d'injustice, est plus motivée et plus déterminée que jamais. Nous conversons sans effort, et si je n'avais pas une conscience aussi aiguë du cadre, je pourrais imaginer que nous sommes dans un café place Taksim. Mais alors, la porte s'ouvre et le gardien nous informe qu'il nous reste que 5 minutes. « Dis à tout le monde de ne pas s'inquiéter », ajoute-t-il, alors que nous apprêtons à nous séparer. J'ai fait le choix de travailler sur les droits humains. Je suis prête à en payer le prix et je n'ai pas peur. Personne n'a été libéré avant 4 mois dans des affaires politiques et je suis psychologiquement prête à rester ici pendant 1 an. Mon séjour en prison a encore renforcé ma détermination à défendre mes valeurs. Je ne les sacrifierai pas. Alors que l'on me reconduit vers la sortie de la prison, je réfléchis à la façon dont Idil a tiré parti de l'injustice révoltante qui lui était faite pour nourrir ses convictions et renforcer sa détermination. Je suis frappé de constater que, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas pris la mesure de sa remarquable force intérieure. Le temps passé avec elle me rappelle aussi que le courage est contagieux. Sa force a renouvelé ma propre détermination à lutter non seulement pour sa libération, mais aussi pour la libération de toutes les personnes injustement emprisonnées en Turquie. Alors que je ressors par les portes imposantes de la prison de Silivri, je me rends compte que quand le vent souffle dans la bonne direction, on peut sentir le parfum de la mer de Marmara, et même un goût de sel sur les lèvres, et ce goût est celui de la liberté. Voilà, très beau témoignage donc du secrétaire général d'Amnesty en visite à Idil Ezer, directrice d'Amnesty International Turquie, en prison depuis plus de 2 mois, ainsi que le président d'Amnesty Turquie. C'était du jamais vu d'emprisonner des défenseurs des droits humains aussi longtemps. On va maintenant écouter une chanson qui est un peu en lien avec ce témoignage. C'est toujours d'Herbert Pagani, une chanson sur l'amitié, parce qu'en fait, Amnesty, quand on milite à Amnesty, on se rend compte qu'on se fait de nombreux amis dans le monde entier.
C'est plus fort que les liens de famille, et c'est moins compliqué que l'amour. Et c'est là quand t'es rond comme une bille, et c'est là quand tu cries au secours. C'est le seul carburant qu'on connaisse, qui augmente à mesure qu'on l'emploie. Le vieillard y retrouve sa jeunesse, et les jeunes en ont fait une loi. C'est la banque de toutes les tendresses, c'est une arme pour tous les combats. Ça réchauffe et ça donne du courage, et ça n'a qu'un slogan, on partage. Au clair de l'amitié, le ciel est plus beau. Viens boire à l'amitié, mon L'amitié, c'est un autre langage, un regard et tu as tout compris. Et c'est comme SOS dépannage, tu peux téléphoner jour et nuit. L'amitié, c'est le faux témoignage qui te sauve dans un tribunal. C'est le gars qui te tourne les pages quand t'es seul dans un lit d'hôpital. C'est la banque de toutes les tendresses, c'est une arme pour tous les combats. Ça réchauffe et ça donne du courage, et ça n'a qu'un slogan, on partage. Au clair de l'amitié, le ciel est plus beau. Viens boire à l'amitié, mon
l'amitié,
le ciel est plus
très jolie chanson encore. Hein,
de... Voilà, ben Odile découvre aussi ce chanteur, hélas disparu, mais qui avait d'abord une belle voix et puis de beaux accompagnements musicaux et puis des choses à dire. Voilà, alors je vous disais que sur le site d'amnesty.fr, vous pouvez aller signer les pétitions qui sont en ligne. Je vais vous parler de deux pétitions. Alors la première, c'est sur la Birmanie. Et nous avons, en fait, tous les militants d'Amnesty International ont été très choqués et très déçus par l'attitude d'Aung San Suu Kyi face à la répression féroce de la population Rohingya par l'armée birmane. Et très déçue par le discours qu'elle a fait, qui est en fait un tissu de mensonges. D'autant plus déçue qu'on a passé des années à la soutenir quand, ayant gagné les élections démocratiques haut la main, elle s'était retrouvée en prison, puis en assignation à résidence. Et nous avions applaudi à son prix Nobel de la paix. Et là, franchement, ça a été une immense déception pour tous les militants de voir son attitude actuelle. Donc voici sur le site ce que vous pouvez trouver. Suite au discours d'Aung San Suu Kyi, nous avons publié le 19 septembre le communiqué suivant. Aung San Suu Kyi a prononcé un discours sur la crise que traverse l'État d'Arakan en Birmanie. Discours qui démontre qu'elle-même et son gouvernement préfèrent fermer les yeux sur les violences. Certains passages n'étaient rien de plus qu'un tissu de mensonges et de fautes rejetées sur les victimes. Des preuves accablantes témoignent de ce que les forces de sécurité sont engagées dans une campagne de nettoyage ethnique. S'il est positif d'entendre Aung San Suu Kyi condamner les violations des droits humains dans l'État d'Arakan, elle garde le silence sur le rôle des forces de sécurité dans ces événements. Contrairement à ce qu'elle affirme, les Rohingyas sont victimes de ségrégation dans l'État d'Arakan. Ils sont privés de nationalité et en butte à de nombreux obstacles pour accéder aux services de santé et à d'autres services élémentaires. Les réfugiés qui ont fui vers le Bangladesh ne peuvent pas revenir vers ce statu quo désastreux. Aung San Suu Kyi a souligné à juste titre les difficultés que génèrent les conflits dans d'autres régions du pays. Cependant, le fait demeure que les minorités ethniques subissent de graves atteintes aux droits humains imputables à l'armée, notamment dans les États Kachin et Shan. Ces pratiques se poursuivront tant que les forces de sécurité jouiront d'une impunité quasi totale. Aung San Suu Kyi affirme que son gouvernement ne craint pas l'examen international. Mais ses mots sonnent creux. Le Myanmar, la Birmanie, a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne coopérerait pas avec la mission d'établissement des faits mandatée par l'ONU en 2017. Si le Myanmar n'a rien à cacher, il devrait autoriser la venue d'enquêteurs de l'ONU dans le pays, y compris dans l'État d'Arakan. Il devrait aussi accorder aux organismes humanitaires un accès complet et sans entrave dans toutes les régions du pays, afin qu'ils puissent venir en aide à ceux qui en ont besoin. Elle a appelé les réfugiés, ceux qui sont partis au Bangladesh, à revenir, mais comment revenir sans aucune garantie alors que la justice n'est pas faite? Donc il y a une pétition qui est en ligne, stop au nettoyage ethnique des Rohingyas. On a des preuves, on a des témoignages, on a des photos satellites de nombreux villages de Rohingyas qui ont été complètement brûlés. C'est vraiment un nettoyage ethnique. Les mots sont forts, mais c'est de cela dont il s'agit. Et Aung San Suu Kyi n'est pas à la hauteur de ces événements et on en est extrêmement, extrêmement déçus. Donc allez signer nombreux cette pétition sur amnesty.fr. Une autre pétition, concerne la politique de colonisation menée par l'État d'Israël en Cisjordanie et à Jérusalem-Est et qui entraîne des atteintes massives aux droits humains des Palestiniens et empêche le développement économique de territoires palestiniens occupés. L'illégalité de l'installation de colonies dans les territoires palestiniens occupés a été reconnue par les Nations Unies, avec notamment un vote soutenu par la France au Conseil de sécurité, mais aussi au niveau du Parlement européen et de la Cour pénale internationale. La France doit mettre sa législation en conformité avec ses obligations internationales en interdisant l'importation de biens en provenance de ces colonies illégales et en interdisant aux entreprises françaises d'y avoir des activités. L'avis émis en novembre 2016 par le ministère de l'Économie et des Finances, faisant suite aux lignes directrices de la Commission européenne de novembre 2015, ne peut suffire. Les procédures d'identification des biens et produits importés des colonies israéliennes illégales doivent être appliquées, ainsi que des mesures garantissant l'interdiction d'entrée de ces biens et produits sur le marché français, en prévoyant la mise en œuvre de pénalités qui s'appliqueraient aux entreprises contrevenantes. Par ailleurs, la France doit examiner son système interne de réglementation des entreprises françaises de manière à mettre en place des moyens efficaces garantissant qu'elles n'ont pas d'activité dans les colonies et ne commercialisent pas de produits provenant de ces colonies. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. Voilà la lettre que vous pouvez aller signer sur le site amnesty.fr et vous verrez qu'il y a également d'autres pétitions à signer pour des cas dans le monde entier, dans tous les continents. Maintenant, une nouvelle chanson d'Herbert Pagani qui s'appelle « Messieurs les Présidents ». Et vous verrez que dans cette chanson, il a déjà prédit la surveillance de masse, par exemple, hein, ou les problèmes des centrales nucléaires, etc. Enfin, c'est une chanson qui a peut-être 40 ans, mais qui est d'actualité.
Un chien aujourd'hui, ça tient chaud bien sûr, mais ça coûte cher aussi. Au moins 20 balles de taxi, toutes les fois que tu veux lui payer le luxe d'un petit pipi écologique sur de vrais arbres, dans un vrai bois, au bois de Boulogne par exemple. Pour les petits ruisseaux couverts de mousse blanche, pour les petits poissons qui naissent déjà cuits, pour les forêts que nos journaux débitent en tranches, pour le petit oiseau qui cherche en vain son nid. Et pour nos téléphones, toujours trois sur la ligne, nous deux et puis un flic avec ses écouteurs, et notre vie privée qui est mise à la consigne dans les boyaux d'acier de vos ordinateurs. Et pour ces croix gammées surgies des années 30 qu'on voit sur nos affiches aux kiosques et aux stations, est-ce la mode rétro ou certains groupes qui tentent de faire bander à droite les jeunes générations? Pour ces petits paumés qui lancent des grenades, pour ceux qui ont financé leur camp d'entraînement avant qu'on nous envoie faire du footing au stade, nous vous disons bravo, messieurs les présidents. Bravo pour ces jolies centrales nucléaires. Je n'ai pas voulu, et cependant je paye, et que vous cernerez de mille militaires en attendant de mettre un compteur au soleil.
bravo pour cette paix qui marche comme les crabes. Pour notre liberté à l'ombre des képis. Pour nos moteurs qui parlent couramment l'arabe. Nos vies originales comme des photocopies. Bravo pour ces colombes forcées de jouer les aigles, crevant avec vos armes sur nos petits écrans. La terre est une femme, les guerres sont ses règles. Comme disait Staline au gars du Ku Klux Klan, si la musique est belle et les paroles coriaces, n'en soyez pas surpris, messieurs les présidents. Le monde est beau et vous l'avez fait dégueulasse. Le temps d'une chanson, moi j'en ai fait autant.
Donc, une chanson qui a donc 40 ans, mais qui est très d'actualité. Hein. Il avait prédit beaucoup de choses et voilà, on ne l'a pas beaucoup écouté, c'est dommage. Messieurs les présidents, c'était cette chanson. Elle fait partie d'une comédie musicale qu'il avait créée, qui s'appelait Mégalopolis, qui avait rencontré du succès à son époque. Et donc, qui prédisait un peu la vie dans 20, 30 ans. Voilà. Et bon, c'était quand même un visionnaire. Et là, s'il nous a quittés trop jeune, à l'issue d'une grave maladie. On aura l'occasion de l'écouter une dernière fois à la fin de l'émission. Je vais maintenant vous parler des activités du groupe Dinois. Donc on reprend, puisque demain à 18h, nous avons notre réunion de rentrée. On se réunit dans les locaux des associations qui se trouvent à droite de l'atrium, quand on regarde le bâtiment de la mairie de Digne. Et si vous voulez venir assister à une réunion pour vous faire une idée, vous êtes les bienvenus. Donc c'est à 18h demain, mardi 26 septembre, dans la salle des associations à la mairie de Digne. Ensuite, le samedi 30 septembre, samedi prochain, on a une réunion régionale sur le festival du cinéma. Depuis 2 ans, on participe à un festival, on organise un festival de cinéma sur les droits humains dans la région Provence-Alpes-Corse. Et donc, on va élaborer le prochain festival qui aura lieu courant mars. Et je pense qu'on fera passer des films sur Digne au cinéma et puis aussi dans les établissements scolaires avec lesquels nous travaillons. Je pense notamment au lycée Pierre-Jules de Gênes, où il y a une antenne jeune qui va repartir, puisque ceux qui étaient référents de l'antenne jeune sont en faculté cette année. Mais il y a une jeune qui est en première, qui va venir à notre réunion demain et qui reprend l'antenne jeune. Et puis voilà, on va aussi travailler avec le lycée du Sacré-Cœur, les lycéens du Sacré-Cœur, comme on avait fait l'année dernière. Hein. C'est-à-dire que mardi 3 octobre, on va participer à un forum des associations. Il va y avoir différentes associations qui sont partenaires qui vont présenter leurs actions à tous les lycéens, seconde, première et terminale. Et à la suite de cette présentation, les lycéens vont faire le choix d'une association qui les a marqués pour donner 5 heures de leur temps pendant l'année scolaire à cette association. Voilà. Alors, l'année dernière, nous avions cinq jeunes qui avaient choisi Amnesty International et qui, en fait, ont donné beaucoup plus que 5 heures de leur temps, puisque ces jeunes sont venus aux 10 jours pour signer, à nos réunions, au ciné-débat qu'on a organisé, etc. Et au bout du compte, ils étaient passionnés. Et voilà, je pense qu'ils vont continuer à militer pour les droits humains. Ensuite, nous avons le vendredi 13 et le samedi 14 octobre, notre foire au livre d'automne, qui est maintenant bien connue dans le pays d'Innois. Donc le vendredi 13 octobre, dans la salle de l'Atrium, centre de Digne, à côté de la mairie, notre foire au livre sera ouverte l'après-midi de 14h à 19h30. Voilà, on laisse ouvert très tard pour permettre à ceux qui travaillent de venir. Et puis, on ouvrira aussi notre foire au livre le samedi 14 octobre de 9h à 18h non-stop. Donc là, vous pouvez venir même entre midi et 2. Nous avons des milliers de livres et puis on les renouvelle énormément puisque tout au long de l'année, on nous en donne. Donc, il y a un très gros travail. Alors, le mercredi 11 pour les porter. Si jamais il y en a qui voulaient nous aider, ils pourraient venir à l'Atrium le mercredi 11 après-midi, vers 14h. Et puis, le samedi aussi, à partir de 18h, pour emballer tous les livres et les remettre dans leur garage, parce qu'ils occupent un garage entier. Voilà. Donc, c'est un très gros travail qui permet de récupérer en fait de l'argent, et puis des signatures aussi, bien sûr, de pétitions. Mais de l'argent, parce que comme je vous disais en début d'émission, on est complètement indépendant, donc on ne demande aucune subvention. Et on a besoin d'argent pour les enquêtes, pour les actions, pour les rapports. Voilà, donc c'est un moyen sympathique de recueillir de l'argent. Et puis en même temps, on fait tourner les livres et c'est très, très important, c'est signe de liberté, la lecture. Ensuite, on va participer à une opération qui s'appelle Regard Migrant. C'est une multi-opération faite d'expositions, de spectacles, de conférences, d'ateliers, et qui s'appelle donc Regard Migrant. Alors, il y aura énormément de choses. Une exposition photographique. Depuis octobre 2016, 100 migrants, des Irakiens, des Afghans, des Soudanais, etc., ont été déplacés suite au démantèlement de la jungle de Calais et ils sont accueillis dans le village de vacances de Chandouraine. En résidence photographique pendant 6 mois, Mathieu Parent a réalisé les portraits de ces hommes déracinés dans l'attente d'une vie meilleure. Donc, ces photos vont être exposées à la médiathèque François Mitterrand. Le vernissage aura lieu le mardi 17 octobre à 18h. Cette exposition sera visible jusqu'au 18 novembre. Vous aurez en même temps une exposition qui s'appelle « Images et paroles en liberté ». Ce sont en fait une exposition des gravures et des textes que les résidents de Chandouraine ont écrits avec l'aide d'artistes et puis de bénévoles venus à leur rencontre et qui ont travaillé avec eux pour les aider à exprimer ce qu'ils ont dans leur cœur et leur parcours de vie qui n'est pas toujours très très facile. Vous l'imaginez. Donc cette exposition d'images et paroles en liberté sera à la Galerie de Lubac du mardi 17 octobre au samedi 28 octobre. Et puis une partie sera aussi à l'Hôtel de Ville, dans la salle de l'Atrium, du 23 octobre au 4 novembre. Et je crois qu'il y a une autre partie. Non, je pense que...
Donc voilà. du 23 octobre au 4 novembre, c'est à l'Atrium. C'est un peu comme un relais.
Voilà, en fait, il y a plusieurs lieux d'exposition de ces gravures et de ces textes. Donc, il y aura... Elles seront présentées une partie à la médiathèque François Mitterrand, du 17 octobre au 18 novembre, et une partie à la galerie de Lubac, du 17 octobre au 28 octobre. Et une partie, voilà, il y a donc trois lieux. Il y a la médiathèque, la galerie de Lubac, qui n'est pas très loin de la médiathèque, et puis également à l'atrium.
Alors, on répète, pour la médiathèque, le vernissage, c'est mardi 17 octobre. Oui. Et l'expo, donc, a lieu jusqu'à quand?
Jusqu'au 18 novembre.
18 novembre à la médiathèque.
Voilà. Donc, il y aura à la fois à la médiathèque l'exposition photographique de Mathieu Parent, Regard migrant, et puis l'exposition des gravures et des textes des résidents de Chandouraine. Et... J'ai vu ces gravures et ces textes, c'est remarquable. Je vous invite vivement à aller voir ça. Donc, ces gravures et ces textes seront mis en trois lieux. À la médiathèque François Mitterrand, du 17 octobre au 18 novembre.
À la galerie de Lubac.
La galerie de Lubac, du 17 octobre au 28 octobre. Là, c'est un temps plus court. Et puis, en même temps aussi, du 23 octobre au 4 novembre, à l'Atrium. De toute façon, les programmes vont être édités, vous les trouverez à la médiathèque de Digne. Et puis, nous allons avoir trois conférences, dont la première nous tient particulièrement à cœur, parce que c'est une conférence de Raquel Tiercelin, qui est membre d'Amnesty du groupe de Pertuis, qui est une amie et qui est une personne qui a vécu dans sa chair l'émigration, puisque enfant, à l'âge de 6 ans, elle a dû quitter l'Espagne parce que ses parents étaient républicains. Et donc, elle est venue, traversant les Pyrénées, elle est venue se réfugier en France. Elle a été accueillie dans une famille d'accueil. Et donc, elle va faire une conférence à partir du livre qu'elle a coédité, co-traduit, en fait, et qui s'appelle... Paroles orphelines, les enfants et la guerre d'Espagne, aux éditions PUF. C'est une compilation de lettres que ces enfants déportés, migrants, en France, mais aussi en Russie, au Mexique, dans de nombreux pays, ont écrit. Ces lettres ne sont pas toutes arrivées à destination. Il n'y a pas eu forcément des réponses parce que les parents aussi étaient dispersés. Certains sont morts dans le conflit, d'autres ont aussi fui devant les troupes franquistes qui l'emportaient. Hein. Voilà, donc c'est une conférence qui va avoir lieu le mercredi 18 octobre à 18h à la médiathèque François Mitterrand. Et voici le petit texte de présentation. En 1937, entre 30 et 50 000 enfants participèrent au premier exil du peuple espagnol dans les pays qui les accueillirent pour les mettre à l'abri de la guerre civile. Presque 80 ans plus tard, Raquel Tiercelin, co-traductrice de l'ouvrage, raconte « Elle a 7 ans lorsqu'en janvier 1939 tombe la Catalogne, dernier rempart républicain, et qu'elle se retrouve emportée par le flot de l'exode vers la France. » Vous voyez que l'émigration due aux guerres ne date pas d'aujourd'hui, hélas. Donc, je vous invite fortement à aller à cette conférence le mercredi 18 octobre à 18h. C'est toujours dans le cadre de cette grande manifestation Regard migrant. Vous aurez une autre conférence le mardi 24 octobre sur la migration des savants dans les temps fascistes. Les migrations d'intellectuels font partie de la tradition la plus ancienne des universités européennes, y compris pour des raisons d'exercice d'une discipline et bien sûr pour chercher de meilleures conditions de vie. Mais en raison des fascismes du XXe siècle et de l'antisémitisme, la migration des scientifiques a pris un rythme considérable. On aura dans cette conférence un retour sur quelques exemples de ces migrations. Conférence donc de Jean Dombre, qui est un savant et qui fera cette conférence le mardi 24 octobre à 18h à la médiathèque François Mitterrand. Ensuite, une troisième conférence qui n'est pas sans rappeler la première, qui sera faite par Guy Raymond sur la retirada, les républicains espagnols dans les Basses-Alpes, d'une histoire familiale à une histoire locale oubliée. Donc février 39, près de 2300 réfugiés, en majorité des femmes et des enfants de républicains espagnols, arrivés à Digne pour être répartis dans différentes communes du département. Ma grand-mère en hébergera 7. Partie à la recherche d'une histoire familiale, c'est une page oubliée de notre histoire locale que j'ai découverte. Donc c'est une conférence qui fera écho à la conférence de Raquel Tiercelin. Elle aura lieu le mardi 7 novembre à 18h, toujours à la médiathèque François Mitterrand. Voilà, nous sommes donc partenaires à Amnesty International de cette opération et vous pourrez d'ailleurs, lors de la conférence de Raquel Tiercelin, vous procurer ce livre qui est vraiment très, très émouvant de ces lettres des enfants républicains, de républicains espagnols exilés loin de leur pays à cause de la guerre et de la violence. Voilà, donc ensuite, les activités du groupe dinois continueront. Le vendredi 20 octobre, Raquel Tiercelin fera la même conférence à Villars-Colmar. Il y aura aussi un stand d'Amnesty avec beaucoup d'albums justement sur le thème de la migration, des migrants. Et puis le mardi 7 novembre, nous allons commencer nos interventions au lycée Pierre-Gilles de Gênes, puisque les BTS sont intéressés par nos actions et notamment aimeraient faire du théâtre à partir des actions. Donc peut-être on leur proposera les cas de campagne des 10 jours pour signer. Voilà. Nos actions d'éducation aux droits humains vont reprendre également et on pense que c'est très très important de parler des droits humains à tous ces jeunes pour être plus nombreux à créer un monde meilleur. Voilà, donc on va terminer cette émission par Herbert Pagani qui chante une chanson aussi d'actualité puisqu'il parle de Méditerranée.
Du printemps et d'une juive, en pleine nuit j'ai vu le jour. Tu étais bleu, j'étais olive. Entre nous deux, ce fut l'amour. Entre nous deux, ce fut l'amour. Tu m'as bercé de tes silences. Je t'appelais mémé d'azur. Sur les playbacks de mon enfance, je chante tes éclaboussures. Oh toi grand-mère de toutes les mères, baiser de sel sur mes blessures, ô Méditerranée, ma Méditerranée, rien qu'à te voir de loin, mon pauvre cœur explose, petit mouchoir tout bleu parmi les lauriers roses, bleu comme une échymose après un long baiser, je te connais par cœur. Comme un livre ouvert, y'a qu'à tourner les plages. Et dans ces transistors que sont tes coquillages, tu chantes le Coran, la Bible et l'Odyssée. J'entends tes troubadours, Moïse et puis Jésus et Mahomet, chacun à sa manière et tes vedettes. Et tous à leur façon chantaient l'amour. Et tous avaient leurs fans qui pour se voir premiers au hit parade se sont payés des guerres et des croix. croisade sur terre, sur mer, de Troyes jusqu'au Golan. Ma Méditerranée, on ferme tes Édens. La guerre du pétrole va faire rougir tes plages. Nous la suivrons bloquée dans nos embouteillages, à moins qu'on crève en boîte au détour d'un week-end. Est-ce le sable ou la saumure, ou ton climat si tempéré, qui fait pousser les dictatures d'un bois plus dur que l'olivier, et fait fleurir des barbelés comme des produits de la nature? Ô Méditerranée, ma Méditerranée, t'es comme un livre ouvert, y'a qu'à tourner les plages. Mais c'est le même programme à tous tes coquillages, de conneries présentes en conneries passées, avec l'or noir et les bourrouges. Il t'empoisonne tes petits. T'as beau pleurer, personne ne bouge. Et toi, tu meurs dans ton grand lit. Et toi, tu meurs dans ton grand lit. C'est dans ce lit au drap pervenche que je viendrai mourir un jour. Et tes poissons qui font la planche m'indiqueront le bon parcours. La mort sera comme un dimanche.